Tout de suite, le journal Isabelle Millet.
Bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal et les femmes à l'honneur, bien sûr, en cette journée internationale du droit des femmes. Manifestation dans plusieurs villes pour dénoncer notamment les inégalités salariales, mais aussi les violences sexistes. Elle se bat depuis des années pour redonner leur dignité aux femmes de son pays. La Camerounaise Aïssa Doumara, première lauréate du prix Simone Veil. Il y avait des femmes, mais aussi des hommes. Une marée humaine, en tout cas, dans les rues d'Alger. Mobilisation sans précédent ce vendredi contre la perspective d'un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Les femmes encore, 1 sur 10, souffrent d'endométriose, maladie très invalidante mais souvent très longue à détecter. La ministre de la Santé sonne la mobilisation générale. Auchan a perdu plus d'1 milliard d'euros l'an dernier. On tentera de comprendre pourquoi. On entendra également l'ancien joueur de rugby, Jamie Cudmore, qui brise le silence, lui qui a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui après une série de commotions cérébrales. Et puis on écoutera avec délectation Hector Berlioz, c'est le 150e anniversaire de la disparition de ce compositeur français méconnu, nous dira Thierry Geffrotin. Ça tombe bien, c'est un temps idéal pour écouter de la musique, de la pluie au programme de votre week-end et une dominante de nuages, prévision météo complète de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous bien sûr avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Alain de Mendoza, président-directeur général de promovacances.com. Le beau temps de ces derniers jours a boosté les ventes.
Europe 1.
Des rassemblements donc un peu partout en France aujourd'hui. Lille, Toulouse, Marseille, Bordeaux en cette journée internationale des droits des femmes. Et Paris, ce soir, place de la République, des femmes qui veulent avant tout qu'on les respecte.
Tous les jours, ça devrait être la journée des femmes, mais pourquoi il n'y aurait pas un seul jour où on pourrait vraiment montrer ce ras-le-bol de façon vraiment visible et que tout le monde en prenne conscience?
Quand je regarde autour de moi, il n'y a pas une seule de mes amies femmes qui n'ait pas subi des violences dues à leur sexe. On a limite pas envie d'être une femme.
J'ai calculé il n'y a pas longtemps avec des amis, il n'y a pas une journée depuis le mois de décembre où je me suis promenée sans avoir été sifflée, interpellée, touchée.
J'ai subi un viol de la part de mon géniteur. Le juge m'a dit que c'était... que c'est moi qui l'a guiché, alors que c'était un alcoolique.
Des femmes, place de la République à Paris, cet après-midi au micro européen de Marion Gauthier, en cette journée internationale donc des droits des femmes. En Espagne, plus d'un demi-million de manifestantes et de manifestants ont été comptabilisés à Madrid, Barcelone, Séville, Valence, Bilbao. En Grèce, pour la toute première fois, un arrêt de travail de 3 heures a été observé en faveur des femmes dans de nombreuses administrations publiques, tandis qu'en Turquie, la police a fait usage de gaz lacrymogène contre des milliers de femmes qui s'étaient rassemblées dans le centre d'Istanbul, en dépit d'une interdiction de manifester. Emmanuel Macron a lui choisi cette journée symbolique pour remettre le tout premier prix Simone Veil à une militante camerounaise, Aïssa Doumara. Elle-même mariée de force à 15 ans, elle a créé une association qui vient en aide aux femmes dans son pays. Un combat qui, pour elle, est universel.
Je souhaite vivement que la lutte contre les violences faites aux femmes soit érigée en cause nationale par tous les gouvernements du monde entier. Parce que le cliché qui vient de mon pays, le Cameroun, est le même qu'on retrouve à travers toutes les parties du monde à des degrés très différents. Je termine mon propos en formulant un rêve, celui d'un monde sans violence, où toutes les filles et les femmes, tous les hommes et les garçons pourront vivre ensemble en toute égalité et dans le respect mutuel, où ils pourront exprimer leur libre arbitre sans être réprimé, sans être considéré comme étant une fille ou un garçon.
Aïssa Doumara Ngatansou à l'Élysée ce matin au micro européen de Jean-Rémy Bodo. Emmanuel Macron a promis le déblocage de 120 millions d'euros pour soutenir la lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde. Des femmes qui se sont mobilisées également aujourd'hui en Algérie. Elles sont venues grossir les rangs de la contestation anti-Bouteflika. Résultat, toujours plus de monde dans les grandes villes du pays comme ici à Alger.
Ben, tout le peuple est venu ici pour montrer que ce qui est dit... ce qui est dit aux chaînes d'infos est totalement faux. Le peuple ne soutient absolument pas Bouteflika, ni le pouvoir, ni Ouyahia, ni les mesures, ni les réformes ne changeront notre avis. On veut le départ du système, on veut un changement radical.
Parce que, on a eu marre. Ça, monsieur le président a fait de son mieux pour ce pays. C'est donné à fond, mais c'est bon. Il est malade, il doit se reposer.
On sait très bien que le président n'est même pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Et je voudrais passer un message à tout le pouvoir. N'ayez pas peur, laissez le pouvoir. De toute façon, vous allez bénéficier de la loi sur la concorde civile accordée aux terroristes.
Des manifestants et des manifestantes en Algérie, au micro Europe 1 du correspondant d'Europe 1, Nour Chahine. On précise que ces manifestations se sont déroulées pacifiquement. Il y a de la pourriture au sein de l'Église catholique. C'est l'archevêque de Rouen qui le dit aujourd'hui dans un communiqué. Monseigneur Dominique Lebrun a des mots très forts au lendemain de la condamnation du cardinal Barbarin pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Condamnation d'ailleurs qu'il refuse de commenter. Il y a de quoi être troublé, écrit-il. Nous découvrons des péchés graves, aggravés parce qu'ils ont été cachés. À une semaine de la fin du grand débat national, nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. Demain, acte 17. Alors à quoi faut-il s'attendre? C'est toujours assez difficile de savoir. En tout cas à Paris, plutôt que les habituelles manifestations du samedi, un sitting serait prévu au Champ de Mars durant tout le week-end et peut-être aussi un rassemblement à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. En province, Bordeaux et le Puy-en-Velay semblent partis pour être de nouveau des points chauds de cette contestation des Gilets jaunes. L'inquiétude après la présentation des résultats du groupe propriétaire des magasins Auchan, perte nette annoncée d'1,145 milliard d'euros l'an dernier. Emmanuel Duteil, que s'est-il passé? Quel est le problème avec Auchan?
Le gros problème chez Auchan, ce sont ces hypermarchés. Ce n'est pas le seul grand nom de la distribution à avoir un problème avec cela. On l'a vu il y a quelques jours chez Carrefour. Mais comme chez Carrefour, Auchan dit encore croire à ce concept de l'hypermarché, si tant est qu'il est révolutionnaire. Alors comment ils comptent le révolutionner? Eh bien, un petit peu comme chez Carrefour. Déjà, ils vont réduire la taille de certains hypermarchés. Du coup, ils vont réduire le nombre de références que l'on peut y trouver. Et autre innovation extrêmement intéressante, ils vont installer sur place les marques extrêmement connues du groupe, c'est-à-dire que l'on va sûrement avoir des boutiques, Decathlon, Boulanger, Leroy Merlin, Noroto ou Kiabi. On va trouver tout ça dans l'hypermarché. Il va y avoir des tests qui vont être menés dans les mois à venir dans plusieurs magasins. Deuxième révolution, Auchan a une image prix que l'on a du mal à situer entre ceux qui sont partis totalement au combat comme Leclerc ou Intermarché sur les prix ou d'autres qui sont partis sur la qualité ou sur les services associés. Il faut qu'Auchan redéfinisse une image. Donc là, il va également y avoir ce travail. Et puis enfin, Auchan a décidé de faire beaucoup d'économies pour réduire ses pertes. Donc il va finalement falloir réussir à faire mieux demain, à être plus innovant, mais en dépensant moins.
Les précisions d'Emmanuel Duteil que vous retrouverez dans 10 minutes pour son interview écho. Je vous rappelle qu'il reçoit ce soir le président directeur général de promovacances.com. Vous les avez peut-être croisés aujourd'hui. Ils seront là également demain dans les magasins, les bénévoles des Restos du Cœur qui organisent la grande collecte nationale de leur association pour pouvoir continuer à distribuer de l'aide alimentaire pendant l'été. Produits pour bébés, pâtes ou conserves de fruits, les restos espèrent recueillir 8000 tonnes de denrées alimentaires qui serviront à préparer 8 millions de repas. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et la ministre de la Santé qui sonne la mobilisation pour soutenir les femmes qui souffrent d'endométriose. À tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h09, merci d'écouter Europe 1. Et c'est une maladie encore très mal prise en charge. Elle touche pourtant une femme sur 10. L'endométriose, une pathologie gynécologique qui provoque des douleurs violentes, parfois invalidantes et même des cas d'infertilité. Il faut souvent plus de 7 ans pour la diagnostiquer. La ministre de la Santé a fait des annonces aujourd'hui. Agnès Buzyn promet une meilleure prise en charge.
Première mesure que nous pourrions faire pour aider ces femmes, c'est qu'elles ne perdent pas de temps et que le diagnostic soit posé plus tôt. D'abord, dans les consultations obligatoires des petites filles, il y aura des questions qui seront posées pour essayer de détecter l'endométriose, car l'endométriose peut exister même chez des jeunes adolescentes à peine pubères. Et puis nous allons former les professionnels, parce qu'il y a une méconnaissance de cette maladie chez les médecins, chez les sages-femmes. Enfin, je veux que les femmes puissent se repérer dans des filières de prise en charge qui leur permettent de se raccrocher à des médecins qui vont pouvoir leur proposer un suivi de la douleur, une préservation de la fertilité et bien poser les indications chirurgicales lorsqu'il y en a, puisque 30% des femmes vont avoir besoin de chirurgie et 70% des femmes vont avoir besoin d'un traitement médical.
La ministre de la Santé Agnès Buzyn au micro européen de Bastien Munch. Un migrant d'une vingtaine d'années retrouvé en arrêt cardio-respiratoire dans la remorque d'un camion au port de Calais. Les pompiers n'ont pas réussi à le réanimer. Décès accidentel, l'homme aurait été écrasé entre deux palettes. Theresa May demande un dernier effort à l'Union européenne. Elle souhaite des concessions sur le Brexit pour sortir enfin de l'impasse. Au Venezuela, une énorme panne de courant plonge le pays dans le noir depuis hier soir. Nicolas Maduro dénonce un sabotage de la principale centrale hydroélectrique du pays. Sabotage fomenté, selon lui, par l'opposition et par les États-Unis pour renverser le pouvoir. Mais les experts dénoncent régulièrement le manque d'investissement dans l'entretien des infrastructures du pays. Mission réussie pour la capsule Dragon de SpaceX. Après 6 jours dans l'espace, elle a améri aujourd'hui dans l'océan Atlantique au large de la Floride. À bord, cette fois, il n'y avait qu'un mannequin, mais le succès de cette mission ouvre la voie à la reprise des vols habités depuis les États-Unis. La grosse colère des supporters du PSG. Nous sommes de nouveau la risée de l'Europe, écrivent-ils dans un communiqué. 2 jours après l'élimination par Manchester United, vous avez failli à votre mission. Nous attendons plus de respect, plus de combativité, plus de professionnalisme et plus d'ambition de la part de ceux qui ont le devoir de défendre nos couleurs sur le terrain. La disparition de l'ancien entraîneur du club de rugby de l'AS Béziers, Raoul Barrière. Il avait 91 ans, surnommé le sorcier de Sauclière du nom de l'ancien stade. Grâce à lui, Béziers a décroché 6 titres de champion de France dans les années 70. À propos de rugby, l'ancien joueur pro Jamie Cudmore brise le silence. Lui qui a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui après une série de commotions cérébrales. L'ancien deuxième ligne canadien de Clermont-Ferrand a subi plusieurs chocs à la tête en l'espace de quelques semaines. Simon Rubin.
Oui, et dans ce dossier, il est question d'un match précis, c'est la finale de Coupe d'Europe 2015. Cudmore, qui subit à l'époque 2 chocs à la tête pendant le match, et selon lui, selon le règlement d'ailleurs, il n'aurait jamais dû revenir sur le terrain après de telles blessures. Mais son staff à l'époque lui avait demandé de retourner jouer, il avait accepté. Alors aujourd'hui, Cudmore estime qu'il a été mis gravement en danger. J'ai pu lui parler ce matin par téléphone et... pour lui, cette plainte, elle doit surtout éveiller les consciences. Les chocs à la tête, dit-il, c'est grave, voire mortel.
C'est une blessure très très grave. Et si ce n'est pas traité comme tel, on va avoir beaucoup de soucis dans le futur. On va avoir encore plus de morts comme on a eu cette année. Ça fait 4. Et si on commence à mettre notre vie en jeu juste en jouant, on va détruire beaucoup de choses qui sont très bien pour nous.
Des morts, des blessures graves, une défiance vis-à-vis de tout un sport. Voilà le tableau dressé par le joueur canadien si on ne fait rien. En ce qui concerne son cas personnel, une enquête est aujourd'hui en cours. Le club de Clermont maintient qu'il n'a pas commis de faute.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. On parlait tout à l'heure de la journée internationale des droits des femmes. Et bien aux États-Unis, les joueuses de l'équipe américaine de foot ont porté plainte aujourd'hui contre leur fédération. Elles s'estiment victimes de discrimination salariale face à leurs homologues masculins. Et ce, malgré leurs meilleurs résultats sportifs. L'USSF a complètement échoué à promouvoir l'égalité des sexes, expliquent les joueuses dans cette plainte collective. Et puis, il y a tout juste 150 ans, disparaissait un génie, le compositeur français Hector Berlioz, un artiste encore trop méconnu, Thierry Geffrotin.
Vénéré, adulé en Angleterre depuis très longtemps, Berlioz attend encore une reconnaissance définitive en France. Il faut dire que l'homme est difficile à résumer, à réduire. Compositeur, bien sûr, chef d'orchestre, théoricien de la musique, critique, journaliste, organisateur de spectacles et même créateur du concept de festival. Et j'ajoute, propriétaire terrien. Il vivait du revenu de ses terres. Musicalement, on a seulement voulu retenir la démesure et le gigantisme, alors que Berlioz est aussi raffinement et élégance. Berlioz, enfin connu et reconnu dans son pays, la France. On parle du transfert de ses cendres au Panthéon, ce qui n'est pas encore fait. Mais Bruno Messina, qui a en charge toutes les manifestations du 150e anniversaire, veut y croire. Bruno Messina, qui dirige le festival Berlioz à la Côte-Saint-André en Isère, là où est né le compositeur. L'édition 2019, qui aura lieu fin août, s'annonce festive et populaire. Les plus grands interprètes de Berlioz seront présents.
De la disparition d'Hector Berlioz avec Thierry Geffrotin. Et c'est un week-end à rester sous la couette et écouter de la musique et de Valérie Darmon. Puis puisque c'est un défilé de perturbations qui va nous attendre tout au long de ce week-end.
Absolument, on peut s'attendre à de nombreux épisodes de pluie et déjà demain, la Bretagne, le sud de la Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou, les Charentes, le Nord-Aquitaine, le Centre, la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace seront bien arrosés. Ce sera plus lumineux du Pas-de-Calais aux Ardennes et surtout du Pays Basque aux Alpes-Maritimes. Et puis le beau temps qui va régner tout de même entre les Bouches-du-Rhône et la région de Menton. Les températures, elles sont toujours au-dessus des moyennes de saison. 1 à 11 degrés pour le matin, pour les minimales. 11 à 21 au plus chaud de notre journée pour les maximales. Dimanche, ce sera toujours pluvieux, c'est le maître mot de ce week-end. Cette fois plus au sud, de la Nouvelle-Aquitaine, à l'Alsace, à la Bourgogne, à la Franche-Comté. Ce sera nuageux, sec, mais venteux, du nord-ouest aux Ardennes. Et voilé et venteux, puisque c'est le retour du vent pour ce week-end, du Roussillon aux Alpes du Sud.
La météo, signée Valérie Darmon.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Alain de Mendoza, président directeur général de promovacances.com. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui enchaîne une cinquième séance de baisse.
Oui, Wall Street qui s'inquiète pour l'économie mondiale. Le Dow Jones perd un petit 0,09%, 25 450 points. Le Nasdaq, moins 0,18%, 7 408 points. C'est donc une semaine toute rouge pour les indices. Alors il n'y a pas grand-chose pour remonter le moral des investisseurs. Ils ont été très surpris aujourd'hui par les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Seulement 20 000 postes créés en février. Ça alimente les craintes d'un ralentissement de l'activité, déjà évoqué hier par la Banque Centrale Européenne. Et puis un petit coup de pression sur le secteur technologique. Il est la cible d'une candidate démocrate à la présidentielle américaine. Elle s'appelle Elizabeth Warren. Elle veut tuer les géants de la tech. Elle estime qu'ils ont trop de pouvoir et la réaction, c'est une baisse de 0,3% pour Amazon. Netflix perd 0,8%. Alphabet, moins 0,1%. Le pétrole recule, moins 1% pour le WTI, 56$ le baril. Et puis l'euro remonte plus 0,4%. Il s'échange contre 1,1242$.
Et le CAC 40, lui aussi, est plombé par ses inquiétudes pour l'économie mondiale.
Oui, troisième séance dans le rouge pour le CAC qui cède encore 0,7%, 5 231 points. Du coup, le bilan hebdomadaire est négatif. L'indice parisien accuse un repli de 0,65% sur la semaine. Essilor Luxottica, le géant des lunettes, a déçu pour ses premiers résultats, première publication depuis la fusion entre le français Essilor et l'italien Luxottica. Le titre chute de 6,3%. Et puis les valeurs liées au pétrole ont été chahutées. Vallourec plonge de 6,5%. Technip FMC, moins de 9%. CGG dégringole même de 7,6%. Ses performances financières trimestrielles ont été lourdement sanctionnées.
Et décidément, il n'y a pas grand-chose qui va ce soir puisque les valeurs bancaires restent déprimées par les annonces de la BCE hier.
Oui, la Banque centrale veut repousser ses hausses de taux d'intérêt. Ça pèse sur le secteur. En revanche, ça profite aux foncières. C'est le cas du géant de l'immobilier commercial Unibail Rodamco Westfield qui s'adjuge 1,6%. Ailleurs en Europe, les marchés sont en repli. Repli de 0,7% pour Londres, de 0,5% pour Francfort. Milan perd 1%, moins 1,3% pour Madrid, Zurich moins 0,6% et le CAC 40 perd 0,7%, 5 231 points.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de boursier.com. Et à 22h19, c'est l'heure de l'invité écho, comme tous les soirs. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le président directeur général de promovacances.com.
Bonsoir Alain de Mendoza.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de Promo Vacances et de la Fram. Il paraît que les vacances sont terminées pour les chanceux qui étaient encore en vacances. Allez, il reste quelques heures. Mais il paraît surtout qu'il y a eu un monde fou au ski, là pour les vacances de février. C'est vrai Alain de Mendoza?
Alors, c'est vrai qu'on a assisté à un boom des ventes de dernière minute, comme jamais on avait vu. Je crois que c'est la météo qui a déchaîné les passions parce que tout le monde a voulu se précipiter pour aller skier et bronzer, ce qui était devenu rare les dernières années.
Quand vous dites on n'a jamais vu ça, vous pensez que c'est historique là vraiment quand les gens ont vu qu'il allait y avoir une semaine extraordinaire avec beaucoup de neige, il y a vraiment eu un boom des réservations de dernière minute, on peut le quantifier ?
Alors on parle de plus 50%, mais sur 10 jours, pas, malheureusement pas sur l'année, il y a eu du beau temps à Paris et en France, et puis en 10 jours on a eu une explosion des ventes pour le ski.
Donc une saison extraordinaire du côté du ski, c'est pas encore terminé, il reste quelques semaines pour les stations de ski. On va prendre l'avion maintenant, peut-être on va regarder où sont partis les autres chanceux qui sont allés chercher le soleil autre part.
Alors pour les chanceux qui ont la chance de quitter la France, on a les grands classiques de l'hiver, la République dominicaine, Cuba, l'Asie qui ont marché très très fort, le Maroc, les Canaries. Le grand retour cette année sur l'hiver, c'est l'Égypte.
Ah oui.
L'Égypte qui revient très fort, après presque 10 ans d'arrêt ou de ralentissement.
Mais quand on dit reviennent très fort, c'est que voilà, ils partent de tellement bas que ça reprend un tout petit peu et donc très vite on a l'impression que ça repart très fortement, ou vraiment on retrouve des niveaux d'avant-crise en Égypte.
On retrouve quasiment les niveaux d'avant-crise. Ce qui se passe, c'est que bon, l'Égypte est un pays magnifique hein, qui offre à la fois du balnéaire sur Hurghada, par exemple.
On est sur les bords de la mer Rouge. Là.
Voilà. On peut aussi aller au Caire pour faire les pyramides et on peut faire une magnifique croisière sur le Nil. Donc c'est vraiment trois environnements touristiques très différents. C'est pour ça que le pays a beaucoup d'attrait. Et là, pendant 10 ans, les Français ne pouvaient pas ou ne voulaient pas aller en Égypte. Et puis tout d'un coup, ça se réouvre, ça se calme. Et là, bah, c'est...
Qu'est-ce qui explique qu'une destination comme ça reparte ? C'est les prix qui sont devenus tellement bas qu'ils en sont terriblement attractifs, ou qu'à un moment, dans notre inconscient collectif, on oublie qu'il y a eu des attentats, qu'il y a eu des violences, et on se dit, bah, tiens, s'il n'y a rien eu pendant X temps, je peux peut-être tenter le coup.
C'est plutôt l'inconscient collectif. Alors, les prix, ça aide, mais on ne peut pas faire partir les gens sur une zone qu'ils estiment dangereuse pour eux. Donc, en fait, à un moment donné, dans l'actualité, on ne parle plus de l'Égypte, on ne parle plus d'attentats, on ne parle plus de risques. Petit à petit, sans s'en rendre compte, tout d'un coup, un matin, les gens disent « je veux aller en Égypte ». Voilà.
Ça avait été le cas aussi pour la Tunisie. Hein. Je me rappelle au moment des vacances là, de la Toussaint, on avait dit « la Tunisie, ça y est, on a retrouvé le niveau d'avant-crise, on fait même mieux ». Ça se confirme, là, oui. Toujours hyper bonne tendance.
Alors,
hein.
La Tunisie qui marche même, je parle de Djerba, hein, ouais. Attention, qui est au sud, qui marche même en février. Et puis là, ben, on entame les vacances de Pâques. Et puis certains commencent d'ores et déjà à réserver les vacances de juillet-août. Et la Tunisie est revenue numéro un des ventes.
Alors, on va regarder justement tout ça. J'ai lu l'autre jour une étude, mais j'arrive plus à retrouver la source qui dit que on commence à penser aux vacances quand on revient au travail, et c'est là où on commence à regarder, notamment déjà pour les vacances de Pâques. Est-ce que c'est vrai, vous attendez là, lundi, pour les tout derniers qui rentrent de vacances, avoir un petit pic de réservation ?
Alors ça, c'est un effet un peu psychologique, c'est que quand on revient de vacances, qu'est-ce qu'on a envie de faire ?
D'aller en vacances.
De repartir en vacances. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire ? Retourner au travail.
Ouais.
Et donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se précipite pour aller sur Internet.
Mais vous le voyez très clairement dans les réservations.
Il y a un pic, non pas de vente, attention, il y a un pic de consultation, parce qu'on commence à se dire qu'est-ce qu'on va faire en juillet, qu'est-ce qu'on va faire en août, qu'est-ce qu'on va faire à Pâques, et ça aide à accepter le fait que malheureusement, après les vacances, il faut retourner au travail.
Alors là, vous allez avoir une fin d'année, entre guillemets, si on regarde de septembre à septembre, assez extraordinaire, parce que les vacances de Pâques arrivent, une année à pont, comme on dit, hein, il y a vraiment beaucoup de ponts cette année, et des vacances, bien évidemment, d'été qui se préparent. Quelles sont un petit peu les tendances que vous pouvez déjà nous livrer, Alain de Mendoza ?
Alors, on espère une bonne année, parce que cette année, on n'a ni élection présidentielle, ni Coupe d'Europe, ni Coupe du Monde.
On a des élections européennes.
On a des élections européennes, mais qui draine moins. Et puis depuis peu, malheureusement, le PSG est éliminé. Ouais. Donc les gens ont envie de penser vacances. Et puis on a des destinations qui émergent.
Comme quoi alors ? Faites-nous rêver.
Je vais vous faire rêver. Alors ça vaut et pour l'hiver et aussi pour l'été. On a Oman.
Il fait chaud quand même.
Absolument. C'est plutôt l'hiver. On a Zanzibar.
Hein, alors Zanzibar, là, pour ceux qui auraient un petit peu de mal avec la géographie, ça appartient à la Tanzanie, donc on est sur la côte est de l'Afrique, on n'est pas loin de Madagascar.
Absolument, on est au nord de Madagascar, on est 6 degrés au sud de l'équateur.
Et ça, c'est vraiment des destinations qui montent, parce que je crois que c'est quand même difficile d'accès, hein, si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas de liaison directe depuis la France, et puis on est au tout début de l'installation des hôtels.
Alors vous êtes bien renseigné, en effet, il n'y a pas de vol direct, mais bon. Moi, je pense que Zanzibar, dans 10-20 ans, il y aura beaucoup, beaucoup de Français qui connaîtront cette destination.
Je rappelle, hein, vous êtes le patron de Promo Vacances et de Fram. C'est une destination que vous êtes là, vous, en train de travailler, de préparer pour sensibiliser les futurs voyageurs.
Et bien sur Fram, on a programmé un Framissima qui a ouvert en janvier, que j'ai en plus personnellement visité, donc qui est magnifique. C'est des petits bungalows au bord de la plage. Et sur des destinations comme ça, on a encore un tourisme qui est très authentique, parce que pas encore très développé, donc c'est, on entend se faire réveiller par le coq le matin, parce qu'on n'est pas loin des petits villages, la plage, il n'y a pas grand monde, donc on est un peu la carte postale avec le cocotier un peu penché, et le sable tout blanc, comme on le rêve.
Donc ça, c'est les destinations qui sont en train de monter. On va peut-être s'arrêter une petite minute sur la Fram. Vous l'avez donc racheté il y a maintenant deux ans et demi. Ça a été très, très compliqué au démarrage. C'était une entreprise en très grande difficulté. Est-ce que ça y est, la Fram est sauvée?
Eh bien, on est quasiment sauvé, puisque en l'espace de 3 ans, on a réduit 90% les pertes financières. Mmh. Donc, on est presque à l'équilibre et on est ravis parce que c'est une marque qui, les ventes partent très bien. On a connu une très forte croissance de près de 40%. Et donc, pour moi, c'était un gros travail, c'est sûr, avec mon équipe.
Mais qui n'est pas encore terminé.
Qui n'est pas terminé, mais de toute manière, ça, même quand ça va bien, c'est malheureusement jamais terminé.
Mais comment aujourd'hui, c'est encore à la mode ces vacances dans des clubs où... Parce que là, vous citez un Framissima à Zanzibar, on peut se dire qu'on a encore envie de sortir de son club. Et on pourrait se dire, dans des destinations comme ça, c'est peut-être pas les plus adaptées.
Alors le concept de club a beaucoup évolué. On a cette image du club, et encore qui est très liée au Club Med, où les gens restaient un peu dans leur cabane et leur bungalow, et le soir on faisait un petit pas de danse et quelques sketchs. Ça c'est complètement fini, c'est l'image d'Épinal. Aujourd'hui, le concept de club a évolué. C'est un club qui est ouvert vers le monde extérieur. Par exemple, à Zanzibar, le matin, on emmène nos clients en promenade. Pendant 3 heures, on va sur la plage et on va visiter notamment des écoles. Où on fait des cours de cuisine avec des gens qui sont là, qui viennent. Donc on est vraiment sur un tourisme qui est beaucoup plus immersif, qui est beaucoup plus authentique. Alors certes, il y a le cours d'aquagym, il y a l'animation le soir, il y a le repas.
Oui, il y a quand même le pas de danse.
Il y a les soirées. Mais en plus, voilà, il y a cette ouverture vers l'extérieur qui fait que ce n'est plus le club d'antan.
Et ben merci en tout cas d'être passé ce soir, nous faire un petit peu rêver dans ces studios d'Europe 1, Alain de Mendoza. Le patron de Promo Vacances et de la Fram était notre invité. Je vous dis à mardi et je laisse François Geffrier aux commandes. Lundi soir, il sera là 22h20 pour vous, toujours sur Europe 1.
Et c'est promis, on saura l'accueillir. Merci à vous Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin à la une de vos quotidiens. Une rue d'Alger cet après-midi, noire de monde, des balcons qui débordent, des drapeaux brandis, pas un seul centimètre de libre sur le bitume, à perte de vue. Une photo plus forte que tous les commentaires. C'est à la une du Figaro demain, avec ce titre « La contestation s'étend, le régime vacille ». Dans le journal La Montagne, Florence Chédotal revient elle aussi sur ses nouvelles manifestations aujourd'hui en Algérie avec son édito intitulé « Soit de vie. Les avenues d'Alger, écrit-elle, ne semblaient pas assez larges pour contenir tous les rêves et la soif de vivre de la jeunesse. Des kilomètres et un océan les séparent, mais en Algérie, comme au Venezuela, le peuple dépossédé de ses richesses, de son propre pays comme de sa dignité, donne une leçon de courage au monde. Mais si la France s'est fendue d'un commentaire sur Caracas, sa mauvaise conscience d'ancienne puissance coloniale la force ici à la prudence. Quoi qu'elle dise, de toute façon, elle sera coupable. L'Algérie est un piège diplomatique pour la France, un contentieux mémoriel qui nous interdit de penser sereinement l'espoir que charrie la rue de l'autre côté de la Méditerranée. Et si l'islamisme politique, en embuscade, venait éteindre la lumière? Et si ses sourires trouvaient la violence sur leur chemin? Si les réflexes de survie du pouvoir se déchaînaient? Et si, par bonheur, le peuple déliait enfin ses chaînes? Le monde regarde l'Algérie, c'est l'heure de tous les possibles. Et puis deux titres chocs côte à côte demain matin dans le journal Libération cette fois. D'abord pédophilie, Michael Jackson, very, very bad. Et puis Lafarge et Daesh, le ciment de la terreur. Derrière les tueries parisiennes de 2015 et les affaires du cimentier en Syrie, un même homme, écrit Libé, Abou Lokman. Libération qui retrace le parcours de ce leader du califat, l'une des plus hautes figures de l'État islamique et patron de son service de renseignement. Le terroriste, possiblement abattu par les États-Unis il y a un an, a joué un rôle clé dans les affaires du cimentier franco-suisse en Syrie et dans la planification des massacres sur le sol européen. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques.